fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Bonjour à tous, bonjour Françoise Thirion.
Bonjour Michel Valmer et bonjour à vous Olga Boldireff, puisque nous vous accueillons pour la troisième fois avec grand plaisir dans ce studio de Jet FM. Bonjour.
Bonjour Françoise, bonjour Michel.
Bonjour Olga.
Un plaisir de vous retrouver.
Et merci à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute, présents pour notre émission Fantômes et Merveilles, qui s'intitule aujourd'hui dans la série Vertige et Poésie Songe, ou plus exactement Portrait d'artiste, car nous allons pouvoir continuer notre conversation avec vous, Olga Boldireff.
Que je qualifierais pour ma part d'artiste singulière, ça j'y tiens, oui. En effet, nous avons évoqué au cours de notre rencontre, de nos différentes rencontres précédentes, nous avons évoqué votre enfance, votre désir de vous affirmer comme artiste. Vous avez évoqué votre pratique du tricotin. Mais au moins, il y a deux choses sur lesquelles nous n'avons pas pu nous arrêter. D'abord, c'est l'obsession de l'eau qui revient dans vos œuvres et celle de la présence des pores en particulier par voie de conséquence. Et cette voie de conséquence, c'est le fait de vivre à Nantes, car vous vivez à Nantes. Mais également le fait que la plupart du temps, vos œuvres s'expriment par le paysage sans le plus souvent convoquer la présence humaine. Alors, on commence par cette obsédante présence de l'eau, peut-être.
Si vous voulez, avec plaisir.
Vous êtes servi. Hein. Nantes, vous êtes servi.
Eh oui.
C'est un port.
À Nantes, je suis servie et j'ai même été servie depuis l'enfance puisque maman avait travaillé sur des bateaux en construction dans le port de Nantes. J'ai connu ce port et ce chantier naval qui, je pense, a dû graver dans mon esprit des images extraordinairement fortes puisqu'effectivement, dans ma vie d'artiste, je me suis souvent retrouvée ou à Brest, ou à Dunkerque, ou à Calais, ou même à Rostov-sur-le-Don en Russie, puisque c'est aussi un port, ou Saint-Pétersbourg, également un port. Et en fait, je n'ai pas réalisé tout de suite que j'étais attachée à cette notion de mouvement, de fluidité qu'offre l'eau, mais en essayant un jour de déménager pour avoir peut-être un atelier plus grand, je me suis vue vivant loin de l'eau. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est impossible, je dois garder le paysage fluvial et maritime à proximité pour pouvoir conserver cette idée du mouvement, cette idée aussi qu'offre l'eau avec la dualité, le reflet, l'image toujours un petit peu inconsistante, mais en même temps qui est un imaginaire infini. Et la présence de l'eau à Nantes, qui a certainement dû façonner ma personnalité d'enfant, y est pour beaucoup, c'est indéniable. Ça, maintenant, je le réalise à 300%. Oui, oui, tout à fait.
Mais non pas simplement un miroir, finalement. Quelque chose de plus qu'un miroir.
C'est le mouvement, je pense aussi. C'est-à-dire que pendant de très nombreuses années, j'ai fonctionné en faisant des voyages et des actions dans les lieux publics. Donc j'étais physiquement et corporellement en mouvement. Et progressivement, le paysage... Alors j'ai toujours beaucoup marché, puisque j'ai fait toute une série d'œuvres qui s'intitulent Les dessins promenades dans les différentes villes où j'allais. Mais progressivement, l'eau... en vieillissant et m'a pénétré, on pourrait dire, avec une très très grande intensité, en m'offrant plus qu'un miroir, bien sûr, plus qu'un miroir, mais cette capacité de transformation, de métamorphose. Et l'eau offre ces possibilités-là par son mouvement, par sa fluidité, par son trouble aussi. À Nantes, on vit dans une eau étrange, puisqu'on est à la frontière avec l'estuaire, et j'ai souvent regardé avec fascination les marées, l'eau remontée.
Oui, dans la Loire, on le voit. Oui. Quand on se met sur un pont, le pont de Pirmil, par exemple, on voit
ça.
La Loire.
Et ça, c'est fascinant.
Oui, oui. Oui, parce qu'il y a l'estuaire, il y a la Loire, il y a d'autres cours d'eau. D'ailleurs, je ne m'y retrouve pas, moi, dans Nantes, qui découpent des îles, qui ont été recouvertes. Et puis, il y a toujours, quand même, dans la tête des gens, tomber dans la Loire, se suicider dans la Loire, le pont de la Loire, lequel pont de la Loire, au-delà du pont, lequel toujours, qu'est-ce qu'on prend comme pont. Et alors, il y a quand même différentes... Il y a aussi le fleuve qui conduit, qui se jette dans un autre fleuve, qui se jette dans un autre fleuve, donc c'est le chemin qui vous conduit à l'origine, mais qui conduit aussi vers l'espoir. Il y a l'océan, il y a tout ça. Donc c'est ça, en fait, qui m'a impressionnée dans la conférence que j'ai entendue de vous, c'est l'importance du fleuve dans le voyage, dans l'exil aussi.
Tout à fait. Alors déjà, mon grand-père avait pris un bateau à Odessa pour rejoindre Constantinople. Mais effectivement, j'ai fait aussi des images dans un film qui s'intitule « D'un fleuve à l'autre, les paroles du silence », où je faisais se superposer le Don, donc ce fleuve majestueux qu'on trouve à Rostov-sur-le-Don en Russie, d'où sont originaires mes parents, et la Loire, où je suis née, Nantes, où je suis née, et j'ai voulu effectivement que nos histoires familiales se retrouvent et vivent, parce que l'eau, c'est aussi la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, nous sommes quasiment la moitié de l'année en restriction d'eau, et on a besoin de cette vie, de cette eau. Et en faisant se rejoindre et se superposer les deux fleuves, je voulais que la vie continue et poursuive son chemin.
Pour rester dans cette optique du voyage, je vous propose une petite pause musicale. Vous nous avez emmené cette fois...
On voyage avec les pauses musicales.
Hein, oui, on alors voyage. Là, où est-ce que vous nous emmenez, là, vers un nouvel horizon, si j'ai bien compris, c'est alors, Mariza Fado Tradicional.
Ah, c'est le Portugal.
Avec un morceau titré Na Rua do Silencio. Je n'ai pas l'accent. Évasion portugaise, donc.
Oui, oui, oui. Pourquoi ?
On écoute.
On écoute.
Et puis on en reparle.
Na rua do silêncio é tudo mais ausente. Até faz luar e até a vida é pranto. Não há juras de amor, não há quem nos lamente. E o sol quando lá vai é para deitar quebranto. Não há juras de amor, não há quem nos lamente. E o sol quando lá vai é para deitar quebranto. Na rua do silêncio o fado é mais sombrio, e as sombras de uma flor não cabem lá também. A rua tem destino e o céu destino frio. Não tem sentido algum, não pensa lá ninguém. A rua tem destino e o céu destino frio. Não tem sentido algum, não passa lá ninguém. Na rua do silêncio as portas estão fechadas e até o sonho cai sem fé e sem ternura. Na rua do silêncio há lágrimas cansadas. Na rua do silêncio é sempre noite escura. Na rua do silêncio há lágrimas cansadas. Na rua do silêncio é sempre noite escura.
Alors, ce choix musical, Olga Bolduareff, une fois de plus, une manière de tisser, de nouer, de lier, de rattacher, d'attacher, là encore, de nous attacher à votre univers.
Je crois que le Portugal, c'est la saudade. Hein. C'est effectivement une forme de mélancolie qui se retrouve dans la joie de vivre aussi. C'est une tristesse joyeuse pour moi, la musique, le fado. C'est une musique à la fois nostalgique et en même temps pleine de vie. Je suis allée plusieurs fois au Portugal. J'ai d'ailleurs fait pas mal de dessins sur les différentes villes traversées. Et ça s'est imprégné dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Cette musique qui parle de l'ailleurs, qui parle de la vie, qui parle du bonheur et du malheur, mais toujours avec une émotion à 300%. Oui.
Et c'est une ville, et le Portugal, moi j'ai joué beaucoup au Portugal, c'est de tous les pays que j'ai visités, c'est celui que je préfère, qui mélange l'art, la beauté, parce que toutes les céramiques sont formidables, la beauté et la gentillesse.
Oui, justement, là, je voudrais intervenir pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure. C'est qu'il me semble que vous êtes pour toutes les rencontres, tous les rapprochements, et pourtant, dans votre propre œuvre, il y a cette absence de la représentation humaine le plus souvent. Comment ça se fait ?
C'est vrai que je peins en général des paysages qui sont vidés de toute représentation humaine. Alors, pour deux raisons, c'est-à-dire que mon œuvre se base essentiellement sur une histoire personnelle et familiale, qui est donc la notion de vide et d'absence, puisque j'ai grandi loin, quelque part, de ma famille, puisqu'ils étaient cousins, cousines, tantes et oncles restés en Russie. Donc j'ai vécu loin d'eux, j'ai vécu à travers les cartes postales que ma grand-mère envoyait avec ses timbres colorés. Je suivais leur vie à distance. Donc il y a effectivement cette notion-là de perte, d'absence, perte du berceau familial. Pour ma mère, ça a quand même été un drame. Et en même temps, l'absence de personne dans mes paysages, c'est aussi faire vivre les paysages avec, en surimpression ou en sous-impression, pourrais-je plutôt dire, la présence humaine, puisque un paysage n'existe que par l'homme ou la femme qui va regarder ce paysage. Et souvent, ma tante Tania me disait, tu vois, à chaque fois que tu peindras ce paysage, alors on était dans une rue ou dans un port ou au bord d'une rivière, elle me disait, à chaque fois que tu peindras ce paysage, on sera là. C'est-à-dire que grâce au paysage que tu vas peindre, tu vas continuer notre vie. Nous serons là à chaque fois. Et donc, il y a effectivement un vide, mais pas un vrai vide. Il y a pas de... C'est la vie, en fait, tous ces paysages. C'est pour ça que j'aimais la possibilité de dire que la quantité de paysages que je peins depuis déjà plusieurs décennies en tant qu'artiste sont un peu les multiples facettes de ma personnalité et je leur ressemble, ils me ressemblent, je ne sais pas trop dans quel sens on doit dire la chose, mais ils sont effectivement les présences humaines, cette continuation de vie qui m'importe de révéler à travers mes œuvres.
Si je comprends bien, on continue là, au cours de nos différents échanges, à tisser, non pas l'habit, mais le corps même de ce que vous cherchez à être dans ce monde et dans ces œuvres qui ne cessent de se vouloir être déchiffrées pour mieux s'y intégrer et s'intégrer. C'est un vaste problème, ça. C'est passionnant. Hélas, notre émission touche une fois de plus à sa fin.
La semaine prochaine, il faudra absolument évoquer les paysages, parce que c'est très important dans votre œuvre.
Bien sûr.
Maintenant, dans l'évolution, au-delà du tricotin, on est dans la poésie de vos paysages et dans l'expression vraiment réaliste de ces paysages. Alors, au revoir, amis de JTFM, et à la semaine prochaine pour connaître la suite, parce qu'il y a une suite. Au revoir, Olga Bolduareff. Merci à Manuel Febvre pour ce générique, et à la semaine prochaine, chers auditeurs, à la même heure.
Fantômes et merveilles. une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.